Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Comment serons-nous soignés en 2041? Comment l'intelligence artificielle va-t-elle nous aider à gagner de nombreuses années de vie en bonne santé? La réponse va nous être donnée par le professeur Jean-Emmanuel Bibeau, cancérologue et un des plus éminents spécialistes de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle aussi bien espérée que redoutée. Plus de 7 millions de Français ont une déficience auditive. À l'occasion de la Journée nationale de l'audition, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bardet, président de Audition Conseil, premier groupe d'audioprothésistes indépendants. Enfin, notre ami et notre idole Guy Valencien va encore piquer sa crise et il va nous dire pourquoi et pourquoi il a raison. Check-up santé, c'est parti. Jean-Emmanuel Bibeau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Check-up Santé. Vous êtes professeur en cancérologie. Vous êtes un des spécialistes les plus reconnus quand même en intelligence artificielle dans le domaine de la santé. C'est vrai que c'est cette intelligence artificielle qu'on met à toutes les sauces hein, et qui va, j'espère, booster la science pour qu'on soit soigné différemment, en particulier en 2041. Juste avant tout, une petite définition d'intelligence artificielle pour ceux qui nous... écoute.
Alors, tous les experts sont pas d'accord justement sur cette IA. Globalement, quand on a commencé à en faire, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait envisagé de définir ça de la façon suivante. C'était l'ensemble des méthodes mathématiques ou informatiques qui permettaient de répondre à des questions, on va dire, et qui supposaient que la capacité de répondre à ces questions avait une traduction cognitive humaine. Mais il y a beaucoup d'autres experts qui pensent que c'est pas vraiment du tout le fait de calquer l'intelligence humaine, donc c'est difficile de faire la part des choses en réalité.
Alors, vous avez dit 2041, pourquoi 2041, pas 2040 ou 2050?
Alors, la vraie raison, c'était parce que, par rapport au titre du livre, c'était parce qu'en fait, je suis un grand fan de 2001, Odyssée de l'espace, et donc il fallait que ça finisse par 1. Il fallait que ce soit à la fois suffisamment lointain, pour que ce soit pas, on n'ait pas l'impression que ce soit demain, et en même temps, il faut que ce soit assez proche. Donc, moins de 20 ans, 2041, c'était parfait.
J'ai eu peur, je pensais que vous étiez né en 1941. Donc, très bien, donc quand on parle de santé, on parle de parcours de soins hein, qui va de la prévention, c'est une succession d'étapes qui va de la prévention au diagnostic, puis au traitement, puis enfin au suivi. Donc l'IA intervient évidemment à toutes ces étapes.
Alors, la première chose qu'on peut dire, effectivement, et vous l'avez dit au début, c'est que il faut pas survendre ce que peut faire l'IA. Il y a beaucoup de choses qu'elle va pouvoir faire et qu'elle ne peut pas encore tout à fait faire. Donc, c'est le premier message important. On n'est pas encore dans la science-fiction de ce qu'on peut lire parfois.
En tout cas, elle va intervenir à ces différentes étapes.
Exactement. Ce qui est certain, c'est qu'elle va être utilisée à la fois pour de l'épidémiologie, pour du dépistage des maladies, pour du diagnostic, ça c'est déjà fait, quasiment en routine clinique, pour du traitement, ça aussi c'est déjà quasiment fait en routine clinique. Et puis, effectivement, après, pour une étape qui est très importante, c'est tout ce qui est suivi après le traitement, notamment pour le cancer, par exemple.
Alors justement, on va détailler ces 4 à 5 étapes. Donc, concernant la prévention, que va-t-elle nous apporter, cette intelligence artificielle?
Alors, concernant la prévention, on va dire l'épidémiologie et le dépistage, elle peut apporter plusieurs choses. La première chose qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut vous aider à déterminer votre risque de développer des maladies. On a développé avec le labo notamment un algorithme qui permet de calculer votre risque de faire un cancer du poumon à 5 ans. Donc, si vous savez suffisamment tôt votre risque de faire une maladie, l'idée, c'est pas que ce soit simplement anxiogène, parce que ça servirait vraiment à rien, c'est vraiment de définir des interventions médicales qui permettraient de diminuer ce risque, voire de le faire disparaître complètement.
Une sorte d'intervention préventive, quoi.
Voilà, exactement.
Et donc ça s'applique, vous avez parlé du cancer du poumon, mais ça va évidemment...
Alors ça va s'appliquer, plein de domaines. Par exemple, on parle souvent des arrêts cardiaques, notamment chez les jeunes. On a des algorithmes qui ont été développés à Pompidou pour justement prédire le risque. Et puis on peut du coup imaginer de sélectionner les patients très à risque pour leur faire des bilans cardiovasculaires précis et pour éviter que ces arrêts n'arrivent.
Alors, une étape aussi, le diagnostic. Alors ça, c'est le diagnostic qui a vraiment profité des progrès d'intelligence artificielle, on est d'accord?
Donc pour autant, la prévention, on n'y est pas encore tout à fait. Pour le diagnostic, on y est. Et la raison pour laquelle on y est, c'est parce que les algorithmes d'IA, notamment ceux qui s'appuient sur ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire des réseaux neuronaux profonds, sont particulièrement bons pour tout ce qui est interprétation d'image, pour schématiser. Mmh. Et donc, quand on parle de diagnostic et qu'on parle, par exemple, de radiologie, interpréter une radio, interpréter un scanner, une IRM, mmh. on peut le faire de façon quasi automatique. À l'heure actuelle, il y a toujours l'intervention d'un humain après l'IA, mais il n'est pas totalement impossible, pour certains cas d'usage, que dans les années qui viennent,
que l'humain ne soit plus indispensable.
C'est pas impossible. D'accord. Et puis, il y a le deuxième exemple que
disent les radiologues.
Les radiologues, alors, vous savez, il y a une citation très connue qui est de mmh. Geoff Hinton, qui était un des, ce qu'on appelle les parrains du deep learning, qui est un très, très grand chercheur sur le domaine, en 2017, qui avait dit on devrait arrêter de former des radiologues parce que dans 5 ans, le deep learning va les remplacer. Et puis, il s'est rendu compte qu'il avait dit un peu une bêtise et il a fait son mea culpa. Il a dit non, bon, en fait, les radiologues, on en a encore besoin. Donc, je pense que les radiologues, on en a encore besoin. Le radiologue, il fait pas que non plus du diagnostic sur des images. Ça va un peu plus loin que ça.
Oui,
et donc,
ouais.
ils peuvent être rassurés. On a besoin.
C'est la même chose dans d'autres spécialités, même en cardiologie. Hein. Ouais, il y a des algorithmes maintenant qui vous prédisent une insuffisance cardiaque avec
exactement.
Un seul battement.
Exactement. Ou sur des interprétations de ces jeux automatiques.
Ouais. Alors, donc, cette IA, elle va aussi permettre une personnalisation, en fait, c'est en fait
oui.
l'avenir.
Hein,
oui. Le progrès dans la santé, c'est la personnalisation des,
voilà.
la prise en charge du traitement, etc.
Là, c'est un peu plus difficile parce ouais. que pour personnaliser les traitements, et on en revient un peu à ce dont on parlait sur le dépistage.
Traitement sur mesure, quoi. Un traitement sur mesure, oui.
La majeure partie du temps, pour personnaliser, on a besoin de modèles prédictifs qui peuvent évaluer votre chance de guérison en fonction de tel ou tel traitement. Et ça, c'est assez difficile à évaluer. C'est-à-dire, on a du mal à trouver les bonnes méthodes pour être certain que l'algorithme fait bien. Autant pour interpréter une image, eh ben, on a le résultat de l'image et on peut le comparer à la vérité. Autant prédire à l'avenir quelque chose et ensuite vérifier que la prédiction a été bonne, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et donc ça, on n'y est pas encore. C'est plutôt du domaine de la recherche. Et possiblement, d'ici 5 à 10 ans, on va disposer de modèles dans certaines maladies, dans certains cas d'usage, qui vont être prédictifs, validés, puissants, et qui vont permettre de dire, voilà, ce traitement-là pour ce patient-là ne servira à rien, il vaut mieux prendre cet autre traitement. Mais pour le moment, on n'y est pas encore non plus tout à fait.
Alors, c'est important quand même de préciser que c'est ces nouvelles technologies qui ont permis de stocker toutes ces informations qu'on a, on appelle ça des data, qui vont permettre ensuite, grâce à des algorithmes, de développer cette intelligence artificielle. On termine par le suivi et sa gestion.
Alors le suivi, on y est déjà en fait, notamment sur la thématique, on va dire, de la télésurveillance et, par exemple, pour le cancer, de l'après-cancer. On a déjà des algorithmes qui permettent, à partir de pré-signaux, de pré-symptômes, entre guillemets, de prédire votre risque de faire une récidive, par exemple, pour un cancer du poumon. La France a été pionnière sur cette thématique-là. Et donc, ça permet, au lieu d'attendre tous les 3 mois de voir son médecin en consultation avec un scanner, eh bien, dès qu'il y a le moindre petit signe, on avance la consultation, on avance le bilan et on sait qu'on peut éventuellement trouver une récidive à un stade beaucoup plus précoce qui est beaucoup plus facile à guérir que si elle était plus avancée.
Ouais, cette IA permettra aussi de gérer les stocks, des médicaments, de prévoir peut-être des pénuries.
Alors là, on a beaucoup parlé effectivement d'une application, enfin des applications très médicales, mais il faut savoir qu'il va y avoir des applications beaucoup plus de management, on va dire, autant sur le parcours de soins à l'hôpital, par exemple l'optimisation des temps d'attente. Hein, avant la consultation, on sait qu'on en aurait besoin. L'optimisation des gestions des stocks de médicaments, etc., etc. Et pour le moment, c'est un domaine qui est encore un tout petit peu sous-exploité.
Oui.
Mais je pense que dans les années qui viennent, ça va faire partie des choses qui vont être très, très importantes.
Ce qui pourra même améliorer peut-être les relations entre la ville et l'hôpital.
Hein, c'est aussi un des axes, à mon avis, de développement important qui est un peu sous-exploité aussi. C'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces techniques-là, pour fluidifier les choses. On sait qu'on a beaucoup besoin de fluidifier les échanges entre la ville et l'hôpital, les cliniques, etc. Et donc oui, là, l'IA, je pense, a aussi un rôle à jouer, évidemment.
Alors l'IA, elle requiert évidemment toute une multitude de professions, dont les médecins, bien sûr. Et quand on dit médecin, on dit d'abord étudiant en médecine. Est-ce que les étudiants en médecine sont assez formés à l'intelligence artificielle?
Alors effectivement, ce qui est clair, c'est...
Je sais ce que vous allez me répondre.
Dès qu'on parle d'IA, il y a tout de suite le côté multidisciplinarité. Il y a les informaticiens, les ingénieurs, les chercheurs, les médecins, les paramédicaux, aussi infirmiers, aides-soignants. Tous ces gens participent à la création d'IA et vont participer. Concernant la formation, il y a deux aspects. Premier aspect, est-ce qu'on forme assez les étudiants à comprendre ce que c'est qu'une IA, comment est-ce qu'elle est créée et comment on va s'en servir? Pour le moment, clairement non. Il n'y a pas de cursus minimal obligatoire pour tous les étudiants de médecine. Et ça pose un problème parce qu'on sait que les jeunes étudiants de médecine, ils vont être médecins dans 10 ans, hein, grosso modo. Et si on ne commence pas à les former maintenant, dans 10 ans, ils vont être entourés d'outils d'IA. Ils ne pourront pas vraiment faire la part des choses au sein de ça. Et puis, il y a le deuxième aspect par rapport à la formation. C'est un peu plus vertigineux. C'est si on est amené à utiliser des outils d'IA de plus en plus. Ça veut dire automatiser de plus en plus de choses. il y a un risque de perdre des connaissances, voire des compétences médicales pour les plus jeunes. Et puis, au fur et à mesure des générations, qu'on sache tout simplement même plus faire certaines choses. Donc, il y a un petit signal d'alarme là-dessus, c'est qu'il faut évidemment développer l'IA, mais c'est pas magique, c'est pas la solution à tout. Il faut aussi continuer à développer et à former des médecins.
Évidemment. Alors justement, j'ai parlé en introduction de cette intelligence artificielle aussi espérée que redoutée. Pourquoi on devrait la redouter ?
Alors, le premier risque, c'est effectivement qu'on perde des connaissances et des compétences et que les médecins soient plus qu'ils sont éventuellement actuellement. Alors ça serait pas un drame, mais le vrai drame, ça serait qu'ils fassent perdre des chances aux patients. Ça serait le vrai problème. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est le fait que l'IA, c'est une fois de plus pas quelque chose de magique et on peut aussi faire des mauvaises IA. On peut avoir des IA qui ne fonctionnent pas bien ou alors qui sont biaisés. On en parle très souvent des biais qu'on peut faire dans des IA, que ce soit des biais de données ou des biais d'entraînement. Je peux vous donner un exemple très rapide.
Très rapide pour finir.
Il y a eu une étude qui était sortie en 2016 dans un très grand journal Nature qui avait mis en évidence que l'IA pouvait détecter des mélanomes sur la peau de façon très 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 performante, plus que des humains. Et puis on s'est rendu compte quelques mois plus tard qu'en fait, toutes les données qui avaient été utilisées pour l'entraînement de cette IA étaient des peaux blanches. Et que donc l'IA était totalement incapable de faire la même chose sur des peaux noires. Donc là, c'est un biais de données évident. Et si on n'est pas vigilant à ce genre de biais, on va se retrouver avec des IA qui ne fonctionnent pas bien et qui font perdre des chances aux patients.
Merci beaucoup, Jean-Emmanuel Bibeau. Merci beaucoup. Un monde nouveau qu'il va falloir utiliser, mais à bon escient. On va à présent accueillir Stéphane Bardet, qui est président de Audition Conseil.
BFM Business. Check-up santé. Au cœur de l'innovation santé.
Stéphane Bardet, bonjour.
Bonjour.
Et ravi de vous accueillir à l'occasion de cette journée nationale de l'audition. Il paraît même que Audition Conseil est à l'origine de cette journée nationale.
C'est, tout à fait. Il y a un peu plus de 30 ans, quand le réseau s'est développé, l'appareillage auditif était quelque chose qui n'était pas banalisé comme aujourd'hui. La malaudition était un petit peu quelque chose de caché. On évitait de parler de ces problèmes d'audition. On parlait à l'époque de sonotone. Et c'est vrai qu'il était important de mettre en évidence, avoir un éclairage tout particulier sur ce sens si important et invisible qu'est l'audition et qu'on utilise tous les jours et qui nourrit notre cerveau.
Alors, combien de malentendants en France ? Est-ce qu'on dit malentendants, déficients auditifs ?
Oui, on dit malentendants, oui, tout à fait.
On peut dire aussi déficients auditifs, on peut dire aussi ?
Pareil,
d'accord.
Tout à fait. Alors, on en compte aujourd'hui 7 millions
en France,
voilà, et 8 millions en 2030.
D'accord.
C'est presque autant
que
Français atteints d'obésité.
D'accord. Et pourquoi, en fait, ça augmente ?
Pourquoi ça augmente ? Parce qu'il y a une augmentation du vieillissement de la population.
Évidemment, oui.
Donc,
Mais est-ce qu'il y a plus d'agressions sonores qu'à une époque ou pas ? À l'époque, on parlait, vous savez, des casques, des...
Je ne pense pas. Je pense même qu'il y a, une protection, il y a une prise de conscience des concerts, il y a une réglementation qui s'est mise en place. Mais c'est surtout, d'abord, je pense, les dépistages aussi.
Dans notre jeunesse, on en a pris des décibels quand même.
Tout à fait.
Dans les concerts, oui.
Je pense qu'il y a aussi le fait de mieux identifier les malentendants. Peut-être qu'il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, on en prenait moins cas, donc les gens ne se testaient pas et donc ne se prononçaient pas. Et en même temps, la population qui vieillit et qui va doubler dans les années 30.
Alors, donc, Audition Conseil, c'est un réseau, c'est ça une particularité par rapport aux autres enseignes.
Alors, Audition Conseil, c'est le premier réseau français d'audioprothésistes indépendants, qui sont regroupés sous l'enseigne Audition Conseil. Et je gère aussi un autre réseau qui s'appelle le réseau Luce Audio, qui compte 110 centres en France.
Ça fait quand même pas mal, quelques centaines
d'indépendants, des indépendants sous un groupement d'achat, qui fait en fait à peu près un groupe de 440 centres au national.
D'accord, répartis sur tout
le territoire et les DOM-TOM également.
D'accord, donc une forte régionalisation, c'est ça de vous ?
Oui, tout à fait. On croit beaucoup par rapport à d'autres leaders mondiaux, multinationales étrangères qui sont plutôt sur la verticalisation. Nous, c'est plutôt la puissance des régions, la proximité, cette dimension locale, régionale que nous prenons. Et donc, c'est la puissance des régions qui porte le réseau.
C'est un gros marché, le marché de l'audioprothèse ?
Alors c'est un marché qui depuis 2021 avec la loi 100% santé qui a fait grand écho, on est passé de 1,3 milliard à 2 milliards. Il y a eu 60% d'augmentation en valeur et 80% en volume. Alors c'était une année exceptionnelle puisque aujourd'hui en France, on peut prétendre un appareillage entièrement pris en charge si on a bien évidemment la sécurité sociale, mais aussi une complémentaire responsable.
Avec évidemment une qualité suffisante pour améliorer.
Alors il y a en effet deux classes d'appareils aujourd'hui, les classes 1 et les classes 2. Hein, les classes 1 sont des appareils aux alentours de 950 euros qui vont pouvoir de qualité, de bonne facture, avec des technologies qui sont un petit peu plus anciennes que le marché libre des classes 2, où là on aura des produits aux alentours de 1500 euros en prix moyen. Mais il faut savoir quand même que depuis 2019, les OCAM, les complémentaires de santé, ont augmenté leur remboursement sur les appareils plus onéreux.
D'accord, donc plus accessible.
Tout à fait.
Alors, c'est la journée nationale de l'audition. Qui dit journée nationale, dit sensibilisation.
Tout à fait.
Dit prévention.
Oui.
Comment prévenir? Est-ce que c'est simplement un constat? Les gens entendent moins bien? Ou est-ce qu'il y a des moyens de prévenir?
Alors,
j'ai parlé il y a 10 minutes avec Jean-Emmanuel Bibeau sur l'intelligence artificielle. Alors, dites-moi.
Alors, en fait, on arrive toujours tard sur l'appareillage. Pourquoi? Parce que quand je commence à faire répéter, il faut savoir que la voix humaine, elle n'est pas à 0 décibel ou à 5 décibels. La voix humaine, elle est entre 40 et 60 décibels. Donc, ça veut dire que j'ai déjà perdu un tiers de mon audition. Donc, quand quelqu'un prend conscience de ses problèmes d'audition, c'est souvent des problèmes de compréhension, et il va falloir à peu près 3 ans entre le moment où il prend conscience qu'il a un souci et le moment où il va faire la démarche de se faire appareiller. Sachant qu'il a déjà 30%. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on arrive toujours tard à l'appareillage. Ce qui fait de notre métier un métier particulier, puisque nous devons complètement adapter et personnaliser les appareils auditifs en fonction du capital auditif, de l'ancienneté de la perte et des besoins du patient.
Mais est-ce qu'il faut sensibiliser les enfants, les lycéens
Alors il y a des dépistages qui sont faits, des dépistages néonatales qui sont faits et qui sont mis en œuvre de plus en plus. Oui, il faut sensibiliser l'ensemble de la population aux problèmes d'audition. Maintenant, la population 65-74 ans, c'est 18% des malentendants. Au-delà de 74 ans, c'est 33%. Donc, voilà.
Vous êtes aussi assez spécialisé sur les acouphènes.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. C'est ma spécialité depuis de nombreuses années.
Alors, définition de l'acouphène.
Alors, l'acouphène, c'est une sensation auditive perçue qui n'est pas corrélée avec un son objectif.
C'est peut-être un sifflement, ça peut être...
Alors, c'est souvent des chointements, des sifflements, des bruits de criquets. Et ça va toucher 6 millions de Français. Voilà.
Avec difficile, c'est quand même assez complexe. L'origine des acouphènes assez complexe. Donc, pour ça, c'est souvent difficile à traiter.
Alors, c'est la plasticité centrale qui va faire une sorte de, on va dire, maladaptation ou maladaptative. C'est-à-dire qu'il va y avoir une désafférentation des neurones. Je parle pour les acouphènes acoustiques, parce qu'il y a des acouphènes cardiovasculaires, comme
évidemment,
vous savez, cervicales et autres, mais pour les acouphènes acoustiques. Donc, en fait, cette désafférentation va faire une réorganisation des neurones. C'est comme si, par exemple, sur les fréquences aiguës où souvent sont placés les acouphènes et sur les hautes fréquences, comme il y a beaucoup moins de stimulation, les neurones vont s'exciter davantage, les noyaux centraux vont augmenter leur... C'est comme si on augmentait une radio, en fait, parce qu'on n'entend pas assez. Et puis après, quand on va se retrouver dans le calme, on va entendre le bruit de fond de la radio.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les diminuer au moins?
Alors, c'est une boucle de rétro-contrôle. C'est-à-dire qu'une fois que l'acouphène est imprégné dans le cerveau, le patient qui en souffre, il va l'écouter, ça va le stresser. On voit aujourd'hui, on a deux fois plus d'absence au travail chez la population des patients acouphéniques.
D'accord.
Donc, ce qu'il faut, c'est en fait le soulager et obliger le cerveau à écouter autre chose. Donc, on a mis en place chez Audition Conseil des protocoles de prise en charge de nos patients acouphéniques sur 8 à 9 mois avec des thérapies sonores qui leur permettent d'être soulagés et on mobilise l'attention du cerveau puisque, en fait, l'acouphène, il a un avantage dans l'absolu, c'est que c'est un son qui est constant, permanent, et donc on va utiliser des bruits oscillants, aléatoires rythmiques, comme un ressac de l'océan, que l'on va caler sur la fréquence de l'acouphène. Et là, je m'adresse à tous les patients acouphéniques qui ont fait par le passé des essais. Les nouveaux appareils qui ont des bandes passantes dans les aigus beaucoup plus larges et des canaux beaucoup plus nombreux nous permettent d'affiner ces thérapies sonores et de permettre donc de soulager le patient avec ces thérapies, ces ressacs de l'océan. C'est-à-dire que chaque fois qu'il est enclin à entendre l'acouphène, il va mettre sa thérapie sonore, ça va le soulager. Et au bout de 8 à 9 mois, progressivement, ça va sortir de son quotidien.
Il vous reste 15 secondes pour nous dire comment vous voyez l'audioprothèse dans les 10, 15, peut-être pas 2041, mais avant. Ça va progresser dans quoi ? Très rapidement.
Alors, l'aide auditive aujourd'hui a bénéficié de l'intelligence artificielle. Hein, c'était votre sujet préalable, donc je ne peux m'empêcher d'en parler. Aujourd'hui, un appareil auditif est traduit 27 langues étrangères. Il permet de décrire tout ce que le patient malentendant entend. On est connecté au téléphone, à la télévision, en Bluetooth. On sait l'activité cérébrale du patient et le nombre de pas par jour. C'est un détecteur de chute. Bientôt, ce sera aussi un détecteur de la fréquence cardiaque. Donc, on va avoir une médecine télésurveillance voilà, par le smartphone connecté aux appareils. Donc, de la data, un principe d'alerte, un suivi. Donc, l'appareil auditif, c'est un peu comme un smartphone aujourd'hui. Ce n'est plus un téléphone. L'appareil auditif sera un objet, un capteur, récepteur connecté de santé.
Merci beaucoup. Bon, ça fera pas le café quand même en 2041. Merci beaucoup Stéphane Bardet.
Merci.
On va à présent accueillir Guy Valencien, membre de l'Académie de médecine et fondateur du congrès CHAM.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Bonjour Guy, bonjour Guy Valencien.
Bonjour Fabien.
Vous allez bien ?
Très bien.
Alors vous avez un CV long comme le bras, donc on va couper, hein, on va
oui,
résumer.
Oui, oui, oui.
Voilà, vous êtes fondateur quand même de CHAM, hein, qui est le véritable Davos de la santé en France. Vous êtes un des chantres, entre autres, de la prévention, et qui dit prévention dit vaccination. Pourtant, on vaccine pas mal en France.
Non.
Ah bon ? Parce que
la preuve, c'est que mais non. D'abord, il y a pas mal de gens qui refusent pour des raisons bizarres. Mm-hmm. Et deuxièmement, les campagnes ne sont pas très bien faites. Et il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de campagne.
Alors,
par exemple.
Je vous coupe. Oui. Pourtant, on vaccine contre obligatoire. Hein, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, infection hémophilus, hépatite B, méningocoque C, pneumocoque, rougeole, oreillon, rubéole. C'est pas mal quand même.
Oui. Oui.
On en oublie certains.
On ne vaccine pas contre le zona, ou quasiment pas.
Justement.
3%.
Donc ce zona, en plus, vous l'avez subi de plein fouet.
Je l'ai subi il y a 4 mois et demi, avec un zona crânien du trijumeau gauche, un truc insupportable, hein, à se taper la tête contre les murs et à tomber par terre, avec des crises, des flashs, on dirait du courant de 10 000 volts qui vous est envoyé dans la figure.
Et surtout des douleurs qui persistent.
Et puis des douleurs qui persistent, impossibilité de conduire, de prendre son vélo, et on reste au lit des semaines.
Alors,
c'est lamentable parce que aucune campagne n'a été faite sur le zona. Et il y a un vaccin qui existe, le Zostavax, qui marche mal, qui est interdit aux immunodéprimés. Or, c'est parmi eux que le zona se développe le plus. Et le nouveau vaccin, le Shingrix, de GSK, qui est depuis des années dans certains pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la plupart des pays européens, en France. L'AMM a été donné il y a 6 mois, et la HAS vient la semaine dernière de dire oui, il faut le recommander. Mais il n'est toujours pas remboursé.
Et il coûte combien ?
Ce vaccin coûte 250 euros l'injection, il en faut deux. Donc c'est 500 euros à débourser. Et pour un couple de petits vieux retraités qui gagnent 1000 euros de retraite, ça leur fait bouffer un mois entier. C'est scandaleux.
Mais par rapport au coût que ça peut représenter à la société, si dans le cas de séquelles douloureuses, etc. Donc ça peut valoir beaucoup plus, coûter plus cher à la société.
Mais bien sûr, c'est 250 000 personnes qui sont touchées par an. Le vaccin existe depuis 8 ans à peu près, donc ça fait déjà 1 750 000 personnes qui ont été atteintes de cette maladie qui n'aurait pas dû l'être. C'est 2 600 hospitalisations par an. C'est épouvantable de voir ça. Pourquoi est-ce que les autorités mettent tant de temps entre l'autorisation de mise sur le marché et le remboursement ? On n'est toujours pas là, ça fait plus de 6 mois. Que font-ils ?
Autre aberration, donc ce remboursement, s'il existe, il varie en fonction de la personne qui vaccine.
Oui, c'est complètement idiot. Vous avez des vaccins qui sont remboursés à 70% par le médecin et à 60% par l'infirmier, comme si l'infirmier piquait moins bien le deltoïde. Enfin, on est où ? en France, là. Quand est-ce que cette administration va s'arrêter de produire des normes débiles et de s'intéresser véritablement aux gens ? Je suis content que le président de la République et le ministre de l'économie aient dit « simplifions », parce que véritablement, il est scandaleux d'attendre plus de 6 mois, un remboursement qui n'est toujours pas là, d'un produit qui est très efficace.
Qui a montré son efficacité, bien sûr.
Oui, tout à fait.
En prévention, en préventif, évidemment.
Exactement, et notamment chez les personnes âgées, qui sont de plus en plus nombreuses.
Ouais. À quand Guy Valencien, ministre de la Santé, quand même ?
Non, c'est pas mon truc. Mais vraiment,
Guy, il reste 15 secondes. Je voulais vous parler d'un sujet très rapide. Il faut absolument dire qu'il faut enlever des années de médecine.
Oui, bien sûr. Il faut réduire la durée de la formation, multiplier les formations par simulation et surtout injecter de la formation à l'intelligence artificielle, au numérique et à l'art. À l'art de la relation. Mmh. Voilà, c'est ça le médecin.
Merci beaucoup Guy, vous revenez quand vous voulez.
Au revoir Fabien.
Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.